Bonjour et bienvenue sur Pépites et Astuces, un podcast de l'Institut Transition qui vous propose de découvrir chaque mois une pratique, un outil, une méthode originale qui a permis à une association ou une entreprise engagée de répondre à ses défis. Ce mois-ci, c'est Lola, cofondatrice et coordinatrice de La Toile, qui nous partage des outils et bonnes pratiques pour réaliser un accueil inclusif de son public ou ses bénévoles. Pour commencer notre entretien, Lola nous présente La Toile et son activité d'accueil de jour dédiée aux personnes transgenres, non-binaires et aux femmes en situation de grande précarité.
Cette association, elle a été créée en 2021, donc par moi-même et ma collègue Marie Villard. Donc on a décidé de monter cette association en partant de deux constats principaux qui étaient qu'il y avait un manque d'accueil de jour pour les femmes cisgenres, qu'elles avaient vraiment besoin d'espace en non-mixité sans hommes cis et qu'en fait il en fallait plus. Qu'il existe déjà par exemple au Tambour à Lyon, mais qu'en fait c'est des lieux qui sont saturés tellement le besoin est énorme et qui du coup c'était nécessaire de créer d'autres lieux. Et parallèlement, le deuxième constat, c'était que pour les personnes transgenres et non binaires, dans le secteur du social, c'était un impensé, et dans les accueils de jour également. Pourtant, c'est des personnes qui vont très souvent être dans des situations très précaires, du fait notamment des discriminations qu'elles vivent, notamment avec la transphobie. Et pour autant, ce n'était pas pensé dans les accueils de jour. Donc on s'est dit, en fait, c'est des publics qui sont différents, c'est vrai, mais c'est une mixité choisie qui est testée dans le milieu militant et qui fonctionne bien, parce qu'en fait, c'est des personnes, que ce soit pour les femmes ou pour les personnes transgenres ou pour les personnes non binaires, c'est des personnes qui, du fait de leur identité de genre, vivent des violences, vivent des discriminations et qui ont besoin d'espaces où elles se sentent bien accueillies. Et du coup, on s'est dit, bah, c'est quelque chose qui rassemble ce public-là, donc pourquoi pas, du coup, essayer d'ouvrir un lieu pour ces personnes. Donc c'est comme ça que l'idée de la toile nous est venue. Ensuite, donc on a fait, on va dire, 2 ans de montage de projet pour pouvoir ouvrir nos portes en novembre 2023. Et donc on se situe à la Croix-Rousse, et donc on a un lieu qui accueille 4 à 5 fois par semaine. Donc les personnes dont je viens de parler, donc c'est sous format de permanence. On propose un accès à une douche PMR, des kits d'hygiène tous les mois, un accompagnement socio-administratif, une offre de domiciliation, des petites collations, des ateliers dans le local ou à l'extérieur du local, et puis aussi un lieu de vie, quoi, un lieu de répit et un lieu où les gens se sentent bien en mixité choisie. Donc voilà, c'est à peu près ça le projet La Toile. Et donc aujourd'hui, on est 3 salariés et une quarantaine de bénévoles.
Ok, super. Et on entend dans la présentation que tu fais de la toile que donc vous avez réfléchi le lieu effectivement pour accueillir des personnes selon leur identité de genre. Mais on entend aussi, par exemple, que vous avez pensé à installer une douche accessible au PMR. En fait, on entend que vous vous êtes posé la question d'un accueil inclusif dès la genèse du projet, c'est ça?
Exactement.
Et du
Pardon,
coup.
excuse-moi.
Non, je t'en prie. Et du coup, la question que je me pose, c'est comment concrètement, quand on crée son projet, on se pose ces questions-là et quels sont les premiers pas à franchir quand on veut avoir un accueil qui soit inclusif de plusieurs publics?
Bah nous, c'est vrai que on a vraiment essayé de se poser les questions le plus possible en amont pour en fait. Pouvoir obtenir un local qui correspond déjà aux critères qu'on avait en tête et puis qui pourrait accueillir toutes ces personnes convenablement. Donc, par exemple, la question de l'accès PMR, c'était central dans notre recherche de local. C'était un des critères sur lesquels on ne voulait pas revenir. Il fallait qu'on soit accessible en métro à moins de 10 minutes à pied, pour que ce soit pas trop compliqué, bah, notamment pour les personnes qui ont du mal à se déplacer, qui sont assez peu mobiles. Et il fallait qu'on puisse, soit que le local soit déjà PMR, soit qu'on puisse le faire devenir PMR en rajoutant des rampes, par exemple, et qu'on puisse créer une salle de douche PMR, une fois arrivé dans les locaux. Donc c'était un critère hyper important pour nous. Donc c'est vrai que ça nous a demandé des réflexions en amont, ça nous a demandé de refuser certaines propositions ou occasions parce que bah, ça rentrait pas dans ces critères-là, mais c'était hyper important pour nous.
Oui, et puis c'est vrai que l'accessibilité, une fois que le lieu il est créé, c'est pas évident de revenir dessus. Donc,
Exactement.
question à se poser en amont. OK. OK. Et une fois que le lieu est créé et qu'on commence à envisager l'accueil du public, donc via les permanences, comment la réflexion s'est poursuivie? Est-ce qu'il y a des outils à mettre en place, des pratiques à adopter dès la phase de conception ou d'ouverture du lieu?
Bah nous, en tout cas, c'est ce qu'on a fait. Dans l'idée, enfin, déjà, nous, rien que la création du projet et la façon dont on le présente, c'est déjà pensé pour que ça soit le plus inclusif possible pour les personnes. C'est pas anodin, l'ordre dans lequel on présente notre public. On dit un accueil de jour pour les personnes transgenres, non-binaires et les femmes en situation de grande précarité, parce qu'on estime que les personnes transgenres et non-binaires sont extrêmement invisibilisées dans la société. Donc, c'était important pour nous de pas juste dire pour les minorités de genre, mais de dire très clairement, ouvertement, et de le dire en premier aussi. Voilà, pour dire, bah, en fait, pour une fois, il y a un espace qui a été créé et pensé pour vous, vous êtes les bienvenus, quoi. Donc, il y avait ça. Donc, nous, quand tu arrives dans notre local, on a vraiment, c'est écrit sur la porte, quoi. La toile, accueil de jour pour les personnes transgenres. Donc, pareil, il y a cette idée de se dire dès le départ, on sait où on met les pieds. Pour tout le monde. Donc ça, pour nous, c'était important aussi que ça soit dit très clairement partout. Et après, bah, dans la globalité du local, oui, nous, on a vraiment essayé de penser notamment l'ameublement et la décoration du local dans cette démarche-là. Bah, notamment, bah, déjà avec effectivement la douche PMR, le fait qu'on ait des rampes pour pouvoir rendre la totalité du local PMR. Mais ça peut être aussi des choses un peu plus anodines. Par exemple, nous, on a tout de suite pensé au mobilier pour qu'il soit inclusif, par exemple aux chaises. C'est quelque chose auquel on pensait assez peu. Mais en fait, le mobilier urbain, il est souvent assez peu accessible aux personnes en situation de handicap ou même juste aux personnes grosses. Et donc, bah, ça a été de se dire, bah, on va prendre des chaises qui n'ont pas d'accoudoir, qui ont une assise large, solide, pour qu'en fait tout le monde puisse s'asseoir dessus et être confortable. Et ça, en fait, c'est pas forcément des réflexes qu'on a automatiquement. Donc voilà, ça,
Prise
on a.
impensée.
Ouais, c'est un peu désimpensé. Et en fait, je pense que ça joue beaucoup parce qu'en fait, si t'es mal assis et que tu te sens pas bien, tu restes pas. Donc voilà, c'est des petits détails qui, je pense, font la différence. Et d'ailleurs, on a plein de bons retours sur nos chaises. Il y a plein de gens qui nous disent, ah, on est bien sur vos chaises. Donc voilà. Donc, c'est des petits détails comme ça, mais qui n'en sont pas tant finalement. Ça va être aussi dans bah, la décoration du local. On a mis, nous, beaucoup d'affiches ou aussi des drapeaux. Notre local, il est très décoré. On a essayé aussi de faire quelque chose de chaleureux. Mais il y a aussi vraiment un enjeu de représentation. On a beaucoup d'affiches avec des personnes, des personnages sur ces affiches, et on a fait en sorte qu'il y ait une vraie représentation. Donc il y a des personnes racisées, des personnes de la communauté LGBTQIA+, et il y a une vraie diversité des corps. Et voilà, pour nous, c'était important de se dire directement quand on rentre, on a cette image-là, quoi. Et donc on le retrouve aussi dans ce qu'on met à disposition sur nos permanences, avec du coup les flyers, les BD, les livres qu'on a à disposition qui peuvent être empruntés. Bah, on essaye d'avoir une diversité là-dessus aussi. Donc on va avoir voilà, des livres sur le racisme, sur le validisme, la grossophobie, l'islamophobie, la transphobie. Enfin, l'idée, c'est aussi que les personnes puissent se renseigner, que ça puisse pour nous être un appui aussi pour faire de la sensibilisation s'il y a besoin d'en faire. Enfin voilà, donc c'est vraiment des choses précieuses qui selon nous, font une assez grande différence dans l'accueil qu'on fait.
Ouais, j'en doute
En
pas.
tout cas, en termes d'ameublement et de déco. Ouais.
Ok. Et tu nous disais que vous avez 40 bénévoles qui participent à l'activité de la toile. Est-ce que quand on devient bénévole à la toile, on a quelque chose comme une formation, alors c'est peut-être pas le terme, mais en tout cas une sensibilisation pour soi-même avoir une posture d'accueil qui soit adéquate
Oui, complètement. En fait, pour le recrutement bénévole, déjà, on fait une première rencontre. Donc, on voit un petit peu aussi, bon, bah, si on a des valeurs communes, on va dire. C'est aussi pour nous, à ce moment-là, l'occasion de demander aussi à la personne si bah, elle est en capacité d'accueillir du public, si elle est en capacité bah, de recevoir des discours un peu violents, un peu lourds à porter, et si cette personne a des besoins particuliers, par exemple. En termes de bruit, de surstimulation, notamment pour les personnes avec des troubles autistiques, on essaye d'y penser aussi. Est-ce que toi, ça te convient d'être dans une pièce avec beaucoup de personnes où il y a beaucoup de bruit? Donc ça sert à ça aussi, le premier rendez-vous bénévole. Et après, effectivement, alors au tout début de l'association, on le faisait en format formation. Chaque bénévole qui allait être en contact du public devait suivre une formation sur l'accueil du public, qui était dispensée par plusieurs personnes de l'équipe. Mais en fait, on avait tellement un gros turnover, enfin, on avait souvent des nouvelles bénévoles, donc c'était pas trop tenable sur le long terme. Donc en fait, on l'a mis en format papier. Donc aujourd'hui, on a ce qu'on appelle notre guide de permanence, qui est obligatoire en fait à lire pour les nouvelles bénévoles et aussi, par exemple, pour nos partenaires qui vont intervenir sur nos permanences, donc qui vont aussi être au contact du public. Pour nous, c'est vraiment un guide qui permet de mettre un peu à plat. Ce que nous, on estime être un accueil qualitatif, être sûr que les personnes partagent nos valeurs. Par exemple, il y a tout un point justement sur la question des transidentités en disant il y a quand même un petit peu de définition, le spectre du genre, tout ça. Et puis, il y a surtout les choses à ne pas faire, par exemple, poser plein de questions indiscrètes, comment nous, on fait pour demander les pronoms. Enfin voilà, il y a tout un petit point là-dessus.
C'est
Donc, les
vraiment
bénévoles partent
intéressant.
effectivement avec des clés.
Ok. Sur la question de la dernière chose sur laquelle tu viens de donner comme exemple, les pronoms, c'est vrai que on peut, quand on n'est pas acculturé, si j'ose dire, avoir peur de mégenrer une personne. Donc là, vous avez un petit truc, quelque chose pour poser la question d'une manière qui ne soit pas désobligeante ou simplement maladroite.
Ouais, bien sûr. Déjà, nous, le premier conseil qu'on donne toujours, c'est de ne pas présupposer du genre des personnes avant de le savoir. C'est-à-dire qu'on essaye d'enlever certains réflexes qui sont très difficiles à enlever, mais par exemple les bonjour monsieur, bonjour madame. Eh ben, on oublie parce qu'en fait c'est clairement une erreur en fait et puis ça peut faire beaucoup de mal à certaines personnes et puis c'est pas nécessaire en fait. C'est juste un vieux réflexe qu'on a tous et c'est très dur à enlever vraiment mais voilà, il est pas du tout nécessaire. Donc déjà ça peut être ce genre de choses dans un premier temps. Et après alors nous ce qu'on fait c'est qu'en fait on se présente toujours. Moi, par exemple, je veux ouvrir la porte à une nouvelle personne. Je vais lui dire bonjour, bienvenue à la toile. Je m'appelle Lola, je travaille ici. Mon pronom, c'est elle. Mes
Ok,
accords sont au féminin. Et en fait, le fait de le faire moi, en général, alors soit en face de moi, j'ai une femme cisgenre d'une soixantaine d'années qui, effectivement, n'est pas du tout sensible à ces questions-là et va pas trop comprendre ce que je suis en train de lui dire. Mais du coup, je vais lui expliquer et puis voilà, on va en parler. Soit je suis en face d'une personne à qui ça parle complètement et va me répondre, j'en sais rien, moi, mon prénom, c'est Dindin, et mes pronoms, c'est Yel. Voilà. Mais du coup, en fait, ça va être par effet de réponse. Et du coup, ça m'évite de questionner directement la personne, même si ça, voilà, ça peut arriver. Encore une fois, après, ça dépend aussi, je trouve que quand on sent que la personne est très en retrait, ça peut aussi être laisser le temps à la personne de se genrer elle-même et de faire par rapport à ce que la personne a dit. Ça peut, en fait, on peut aussi trouver des subterfuges pour ne pas genrer la personne qui est en face de nous et attendre qu'elle le fasse d'elle-même. Moi, personnellement, je suis plus à l'aise sur le fait de trouver un moyen pour le demander dès le départ. Donc, moi, c'est ça ma petite technique, c'est que d'abord, je me présente. Je donne mes accords, mon pronom, et en général, par effet miroir, la personne en face va le faire aussi.
Oui, ça lui donne l'espace de le faire si elle en a envie. C'est vraiment super, c'est subtil. Ok.
C'est ça, et puis on a des. Enfin, en fait, les pronoms sont visibles aussi, dans le sens où, par exemple, dans la grande salle d'accueil, on a un tableau avec les noms des bénévoles qui sont là sur les permanences de la semaine. Par exemple, je ne sais pas, mercredi, il y a Elliot, Sarah et Julia. Et entre parenthèses, il va y avoir leurs pronoms,
Ok.
justement pour éviter les mégenrages aussi. Du coup, c'est quelque chose qui est central un peu, quoi. Donc je pense que si on est dans un terrain facilitateur pour se le demander aussi.
Oui, c'est ce qu'on disait sur le fait que le local en lui-même a été pensé pour permettre cette inclusivité.
Exactement.
Les publics qui peuvent être accueillis, des personnes racisées, des personnes en surpoids. En fait, il y a la question de l'intersectionnalité derrière tout ça qui vient. Comment vous jonglez avec ça et comment, quand on accueille du public à nouveau, que ce soit les personnes pour qui l'asso travaille ou les bénévoles, comment on fait pour prendre en compte tout ça dans son accueil?
Alors, je n'aurais pas la prétention de dire qu'on prend en compte tout ça dans notre accueil parce que, encore une fois, tout ce qu'on fait, c'est pour tendre vers
Bien sûr.
un accueil inclusif, tendre vers un lieu safe, mais en soi, je pense que c'est un truc
Harmonie.
inatteignable. Peut-être que notre asso, elle est safe pour certaines personnes et pas pour d'autres, donc encore une fois, on ne peut pas trop se le garantir.
Mais ça, c'est hyper important. C'est peut-être aussi d'être toujours dans cette posture de se dire, je fais de mon mieux, mais je pourrai jamais être
C'est
sûre
ça.
d'être safe pour tout le monde. C'est peut-être aussi un réflexe important à avoir d'avoir cette réflexion.
Ouais, bien sûr, enfin voilà, même dans les milieux militants, enfin je veux dire, ça n'existe pas, quoi. Donc
OK.
faut l'avoir à l'esprit. Nous, on sait qu'on fait de notre mieux pour que ça corresponde à au plus de personnes possible, mais que bien sûr que même en faisant tout ce qu'on fait, bah il y a sûrement des gens qui se sont pas sentis bien à un moment ou pas inclus dans quelque chose. Et voilà. Et on essaye d'avancer et de prendre avec les retours qu'on a, mais c'est sûr que ça reste quelque chose, je pense, d'inatteignable.
Okay.
Mais sur l'intersectionnalité, bah déjà, nous, c'est déjà un concept qui nous parle beaucoup. Et c'est justement avec ces lunettes-là qu'on a essayé de penser le local, quoi. C'est ce que je t'expliquais un peu avant, de penser un peu à tout, à toutes les formes d'oppression et de discrimination qu'on peut imaginer pour que les personnes se sentent libres de venir et se sentent bien. Et ça va être aussi. Bah, dans notre accueil, dans notre approche, essayer de penser à tout ça, quoi. Ça va être des. Enfin, par exemple, là, on essaye de mettre en place des ateliers. Là, on a une photographe qui est venue au local pour prendre des photos d'identité, notamment parce qu'on accueille beaucoup de femmes voilées qui, en fait, n'arrivent pas à prendre leurs photos. En extérieur, leur photo d'identité, parce qu'en fait, très souvent, elles ne peuvent pas choisir si c'est un homme ou si c'est une femme qui va les prendre en photo.
Ah
Ça
oui.
les oblige à se dévoiler bah, dans un lieu où il y a pas mal de passages, tout ça, sans parler du prix qui est assez élevé. En fait, du coup, nous, on a des personnes qui n'avaient pas de papier d'identité depuis genre des années parce qu'elles n'arrivaient pas à faire leur photo d'identité. Donc, en fait, enfin, bon, là, c'est pas nécessairement l'intersectionnalité, mais c'est, je veux dire, avoir des réflexes de penser à ce genre de choses et de se dire, bon, bah là, par exemple, faire venir une photographe au sein du local, dans une pièce fermée, dans un lieu où elle se sent en sécurité, bah c'est facilitateur et ça va permettre de débloquer des situations. En fait, nous, on essaye d'avoir des points d'attention sur pas mal de choses. Après, voilà, encore une fois, on a des choses auxquelles on ne pense pas, mais on essaye de faire le plus d'attention possible, en tout cas.
Ouais, on sent qu'il y a une vraie réflexion qui est menée et qui est la plus large possible, même si, comme tu dis, on fait au mieux possible. Et
C'est
est-ce
ça, par exemple, dans nos. Pardon, excuse-moi.
Vas-y, je t'en prie.
Non, j'allais dire, on propose à la toile des produits d'affirmation de genre. Je sais pas si ça te parle, mais ça va être par exemple des binders, des culottes de tucking. Et par
Peux
exemple, on a essayé de faire
expliquer pour ceux
attention.
qui nous
Je peux
écoutent
expliquer.
qui.
Ouais. Bah, du coup, les produits d'affirmation de genre, c'est du coup souvent des articles qui sont bah, utilisés par les personnes trans. Alors, par exemple, un binder, ça va être une brassière compressive qui va être utilisée pour aplatir la poitrine. Ça peut être soit parce que des personnes ne veulent pas faire d'opération, soit en amont d'une opération. Enfin voilà. Et il y a plein d'autres articles qui sont utilisés. Et du coup, nous, on en propose à la toile parce qu'en fait, c'est très cher. Par exemple, un binder, c'est une quarantaine d'euros. Et donc, on a pensé à ça, mais on s'est aussi dit, bah, c'est important, par exemple, d'essayer d'avoir des binders de différents coloris et pas juste parce que souvent, vu que c'est perçu comme des sous-vêtements et que le but c'est que ça soit invisible, ils vont être proposés couleur chair.
Ah
Sauf que
oui.
couleur chair, très souvent, c'est beige. Et donc, du coup, ça a été de se dire, bah, on va faire attention à essayer d'en prendre de différentes couleurs. Enfin, voilà, c'est de se dire, même quand on fait une démarche inclusive de base, bah, repenser derrière à ne pas refaire quelque chose de pas inclusif dedans, quoi. C'est-à-dire proposer couleur chair, mais que couleur peau blanche, quoi, en fait. Donc, voilà, c'est une réflexion comme ça.
Finalement, c'est toujours garder à l'esprit les différentes formes d'oppression ou de discrimination qui peuvent exister pour toujours re-questionner sa pratique ou sa posture. Si
Exactement.
je résume, c'est
Ouais.
ça l'idée. OK. Et est-ce qu'il y a d'autres bonnes pratiques que tu voulais nous partager? J'ai l'impression qu'on a déjà en peu de temps un très beau panel de ce qu'on peut faire, mais est-ce qu'il y a une dernière chose peut-être que tu voulais partager à ceux qui nous écoutent?
Peut-être le petit conseil que j'ai aussi, c'est que je trouve que ça peut être nous-mêmes une erreur qu'on a pu faire au début. Quand quelqu'un se fait mégenrer devant nous, et que nous, on est au courant que la personne est en train de se faire mégenrer. Nous, on pense aussi que c'est important d'échanger avec la personne en amont pour savoir si elle a envie qu'on reprenne et qu'on soit un soutien. Parce que pareil, des fois, dans une démarche de « je vais aider la personne », je vais dire « ah non, non, c'est pas il, c'est elle », et ben en fait, on peut un peu aggraver la situation en faisant vraiment tout un événement alors que la personne n'aurait pas forcément envie. Donc nous, par exemple, à la toile, on essaye toujours de demander aux personnes « ok, si jamais il y a un problème, que quelqu'un te mégenre ici, est-ce que tu veux que ça soit repris ?» Si tu veux que ça soit repris, est-ce que tu veux le faire toi? Est-ce que tu veux que nous, on le fasse? Et en fait, ça évite aussi, du coup, ce moment-là qui peut être extrêmement malaisant et désagréable pour les personnes. Donc voilà, j'ai aussi toujours essayé d'en échanger avec les personnes et pas non plus de faire à la place d'eux en voulant bien faire. Et en fait, finalement, ça peut un petit peu aggraver. Je dirais ça en dernier petit conseil parce que pour le reste, je pense que je vous ai un peu tout dit.
Bah, merci beaucoup, effectivement, c'était très complet et effectivement, très bon dernier conseil parce que c'est vrai que des fois, en voulant faire mieux, on fait moins bien. Donc,
Exactement.
merci pour ce bon conseil et merci pour tout ce que tu viens de nous partager. Je pense que c'est vraiment très riche et que ça pourra servir à plein d'assos et de structures qui ont du public à accueillir.
Merci à toi.
Et merci à vous de nous avoir écoutés. J'espère que l'épisode vous a plu. On se retrouve le mois prochain pour une nouvelle pépite.